Bonjour. Il y a du monde quand même. Alors, je m'appelle Aloïs Richard, j'ai 31 ans. Merci. Bon comme ça. Alors, je suis né dans une famille d'arrière-plan multidénominationnel. On y trouve des catholiques, des orthodoxes grecs, des protestants réformés, et ma mère, quant à elle, est de confession apostolique arménienne. C'est compliqué tout ça. J'ai un frère jumeau, Basile, et une petite sœur, Solène. Je ne me souviens pas d'avoir vraiment reçu d'éducation religieuse, si ce n'est un rapide cours sur Notre Père que m'avait donné ma grand-mère paternelle. Ma mère m'a dit un jour que je n'avais pas pu être inscrit au catéchisme car cela tombait en même temps que mon cours d'art plastique du mercredi. Je crois bien qu'en fait, c'était une manière de nous laisser le choix. J'avais longtemps enfoui la question de l'existence de Dieu sous tout un tas de préoccupations futiles. J'ai vécu dans ce monde où tout nous tend à vous éloigner de Dieu. Une adolescence parfois un peu excessive, mais surtout sans souci de l'autre, sans regard sur d'autres que soi-même, sauf que lorsque j'y trouvais un intérêt, évidemment. À bien y réfléchir, transactions, pulsions et faux-semblants rythmaient ma vie. Je ne voyais d'elle que les quelques mois devant moi, m'ennuyais vite et changeais de cursus tous les trois jours. Je ne comprenais pas à quoi je pouvais bien servir dans ce monde, si mes objectifs de vie devaient se résumer à faire des études pour gagner de l'argent et l'accumuler pour le transformer en bien matériel, tous aussi futiles les uns que les autres. En 2010, on m'a proposé de venir travailler quelque temps dans un centre social, à côté de Genève, comme moniteur auprès d'ados à peine plus jeunes que moi, parfois dans des situations personnelles compliquées, par moments violents et souvent en proie à diverses addictions. Bref, j'allais m'occuper de jeunes qui ressemblaient un peu à une vision endurcie de celui que j'étais à peine 2 ans plus tôt. Je m'attendais à partir rapidement en courant. Je me suis surpris à les écouter, à faire du lien, à pardonner leurs bêtises multiples et répétées, à les aimer malgré eux, en fait. Ce travail me laissait beaucoup de temps libre, mais en contrepartie, il était assez éprouvant moralement, du fait de la frustration engendrée par mon impuissance devant leur mal-être. Pour compenser, j'allais très souvent me balader en forêt. Je suis un jour tombé sur une petite clairière dans laquelle j'ai par la suite pris l'habitude de me poser parfois plusieurs heures pour y réfléchir à mes petits défis professionnels du moment et à leurs inextricables solutions. Et parfois, je me surprenais à faire ce qui ressemblait à une prière. Pas vraiment structurée, mais je demandais de l'aide à quelqu'un qui n'était pas à côté de moi, sans vraiment y voir un appel à Dieu. Je suis reparti à Grenoble au bout d'un an, fort de cette expérience qui avait d'une certaine manière commencé à changer ma vision du monde, qui me faisait aussi prendre conscience petit à petit que ce qui mène à ce que je voyais à l'époque comme un chaos intérieur propre à chaque homme n'était pas une problématique individuelle, que le péché n'était pas personnel, mais qui concernait tous les hommes. Entre-temps, quelques événements sporadiques m'ont fait réfléchir à mon rapport à celui que je n'aurais pas encore appelé Dieu. Mon oncle Olivier, moine orthodoxe, dans un monastère perdu au fin fond du Larzac pendant 40 ans, est décédé en 2015. Je ne l'ai vu que 2 fois. La dernière fois, c'était quelque temps avant sa mort, et je me souviens m'être dit, à la vue de son attitude et de la sérénité totale qui était la sienne face à l'inéluctabilité de sa mort, que sa foi devait bien avoir quelque chose à voir là-dedans, et que peut-être l'espérance promise par ce Dieu à qui il avait donné sa vie existait bel et bien. Des personnes comme lui, j'ai eu la chance d'en rencontrer un certain nombre par la suite, et j'ai parfois eu cette impression étrange de revoir en eux, de manière évidente, cette sérénité, cette espérance qui transparaissait. Eux n'étaient pas moines. Ils étaient parfois missionnaires, jeunes ingénieurs ou étudiants, tous habités par une foi complètement visible et rayonnante. C'est au cours de cette année, dans l'église où nous nous trouvons, que je les ai rencontrés. J'y ai mis les pieds pour la première fois au début de l'hiver de l'année dernière, sur l'invitation d'une amie chrétienne. Pas franchement à reculons, mais plutôt mu par une certaine curiosité. Peut-être un peu parasité malgré moi par quelques préjugés, il faut bien le dire. Ce que j'y ai trouvé m'a assez vite enthousiasmé. et ce que j'y ai observé m'a fait, dès le départ, me poser beaucoup de questions. Des regards accueillants, le sentiment d'un lien indéfinissable entre des personnes pourtant visiblement très différentes, un lien qui transcende leur classe sociale ou culture d'origine. Ils étaient tous unis par ce lien, invisible, mais pourtant complètement présent, presque palpable. Leur relation à Dieu était directe, sans intercession ou rituel, et surtout elle paraissait profondément sincère. Si ces gens avaient l'air si sereins, il devait bien y avoir une raison. Porté sur cette première expérience plutôt réussie, je n'avais qu'une envie, y retourner le dimanche suivant. Et de fil en aiguille, entre le groupe de semaine du mardi soir et le groupe de jeunes du samedi, arrivait une nouvelle question. La Bible qu'on lit et dont on tire les enseignements éclairants le dimanche au culte était-elle si importante que cela pour éclairer sa foi ? Elle devait bien servir à quelque chose puisque la plupart de mes voisins de banc la stabilotaient et la notaient sans ménagement pendant le prêche. Pour y répondre, il me fallait la lire. Ça tombait bien, on venait de m'en offrir un exemplaire. J'ai commencé à la lire. Sans difficulté particulière et même à mon grand étonnement, au bout de quelques chapitres, une véritable joie qui m'envahissait. Petit à petit, la lecture de la Bible devenait mon activité phare de la journée, à la fois ressourçante et enrichissante. Très prenante aussi. Les enseignements du culte, ma lecture de la Bible et ce qui commençait à devenir mon culte personnel, avec des temps de prière de plus en plus étoffés, tout cela prenait de plus en plus de place dans ma vie, et cela, tout naturellement, sans contrainte ni sacrifice. Je voyais ce temps comme du temps gagné au détriment d'activités devenues totalement inutiles. Je me rendais compte que ma vie avait commencé à changer. Un soir, j'ai prié Dieu qu'il me fasse signe, d'une manière ou d'une autre, et le lendemain, j'avais cette certitude. Dieu existait bien. Il ne pouvait en être autrement. À ma volonté de connaître sa parole, je venais d'y ajouter la foi. Et puisque Dieu existait et me laissait me plonger dans sa parole à travers la Bible, j'allais m'efforcer de mettre en pratique ses commandements du mieux que je le pouvais. La Bible n'était plus pour moi un bouquin de philo un peu obscur, mais le pilier d'une nouvelle vie que j'ouvrais avec bonheur et que j'étudiais avec des amis. J'en retirais de nouveaux questionnements, des réponses, et surtout, au fil de sa lecture, une intime conviction. Ce qui s'y trouvait était inspiré par Dieu. Je ressentais aussi ce besoin de la partager. J'en envoyais parfois des passages à des amis, en parlais à d'autres à la pause café. Après tout, elle annonçait une nouvelle qui me réjouissait. C'est par la foi que j'étais sauvé, donc autant passer le mot. Avec tact et subtilité, bien sûr. Tout cela pour dire que lorsqu'une nouvelle positive vous est communiquée, vous avez plutôt tendance à la partager. D'autant plus qu'elle peut potentiellement concerner tous ceux qui la reçoivent à partir du moment où ils acceptent de l'entendre. Au-delà de ma parole, je me voyais changer d'attitude face à l'autre, l'inconnu dans la rue comme mes amis de longue date. J'avais cette impression étrange, presque affolante, de voir le monde tel qu'il était vraiment, pas franchement reluisant. Cette petite banalité du mal quotidien, la mienne, celle des autres, m'apparaissait comme surlignée. Je me demandais un peu ce qui m'arrivait, mais ce dont j'étais certain, c'était que mon attitude face au péché, à ce que je voyais avec ce regard transformé, comme des injustices, avait elle aussi changé. Avant, je n'aurais jamais demandé pardon, mon orgueil me l'aurait empêché. Après ce changement radical opéré par Dieu en moi, demander pardon à Dieu lorsque je vais à l'encontre de sa volonté était devenu une évidence. Demander pardon lorsque je blessais ou contrariais autrui était devenu une nécessité. Et là, je vais pouvoir souffler un peu, je vais vous lire un passage de la Bible. Alors, c'est dans Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je jetterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. 36, mais verset 26-27. Pardon. Christ. Je me souvenais avoir parfois entendu plus jeune le terme « en Christ ». Je n'y ai mis du sens qu'au moment où j'ai reconnu ma nature de pécheur. Car oui, si Christ s'est sacrifié, c'est, je le crois, pour nous permettre d'expier nos péchés, pour nous donner une chance de nous défaire de nos fardeaux et repartir allégé sur ce sentier étroit qu'il nous indique, en prenant garde à ne pas s'en écarter. Il nous a pardonné tous nos péchés par son sacrifice sur la croix. Ce pardon est une preuve supplémentaire de son amour pour cet homme qu'il a créé. Et pardonner n'est pas facile. Je ne sais pas vous, mais je pense qu'on pardonne tout qu'à ceux que l'on aime au plus profond de notre cœur. Donc oui, Dieu nous aime puisqu'il nous a pardonnés. Chacun a ses faiblesses. L'essentiel est de s'efforcer avec courage et sans cesse d'y remédier. C'est ce qu'il demande à ceux qui l'acceptent. Si j'ai demandé à recevoir le baptême, c'est aussi pour marquer mon appartenance à l'Église et ma volonté nouvelle, entre guillemets, d'obéir à Dieu. Si aujourd'hui, je le reconnais comme mon Père, il m'est apparu nécessaire de témoigner de ma foi, de la déclarer publiquement, d'autant qu'il s'agit d'un acte demandé par Dieu à ceux qui croient en lui et désirent le suivre. Et là, je vais finir sur une autre citation de la Bible, dans Colossiens, chapitre 2, verset 6. « Aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conformément à ce qu'on vous a enseigné. »